France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
La schizophrénie, littéralement esprit divisé, n'affecte qu'environ 1% de la population française. Pourtant, cette maladie mentale reste profondément stigmatisée. Comment améliorer sa prise en charge ? Cette pathologie est mal diagnostiquée et mal comprise, car ses manifestations sont très variées. On devrait presque parler de spectre de la schizophrénie. Cette pathologie d'accès à la conscience se traduit par une altération du rapport au réel. Actuellement, environ 30% des patients répondent bien au traitement disponible. Pour les 70% restants, il est urgent de trouver des approches plus adaptées. Mais pour cela, il faut encore étudier théoriquement cette psychose, car aujourd'hui, nous traitons les symptômes sans en connaître les causes. Schizophrénie, de nouveaux visages thérapeutiques. Raphaël Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Cité, responsable du pôle psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne, président de la Fondation Pierre Deniker et membre de l'Académie française. Boris Chaumette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Cité, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, chercheur à l'INSERM et professeur adjoint à l'Université McGill à Montréal. Et vous êtes aussi l'auteur du livre « Schizophrénie et génétique, un ADN de la folie » publié chez Human Science en 2024. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors, quels sont les mécanismes biologiques impliqués dans cette maladie? Quels sont les neurotransmetteurs en jeu? Et quelles sont les nouvelles cibles thérapeutiques activement recherchées? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. Historiquement, à partir de quand a-t-on commencé à caractériser cette maladie? Nous sommes en 1963.
Parmi toutes les maladies mentales, la schizophrénie est sans conteste celle qui présente la plus grande gravité sociale. Le terme « schizophrénie » a été introduit il y a 50 ans par Eugène Bleuler pour désigner une maladie mentale débutant en général entre 15 et 45 ans, dont le symptôme essentiel était un manque d'unité, une dissociation dans la vie intellectuelle, la sensibilité, la volonté et le sentiment subjectif de sa propre personnalité. La schizophrénie peut se manifester par de nombreux symptômes, perte de l'affectivité, hallucinations, délires, troubles moteurs et du comportement, qui se combine avec la scission du psychisme pour réaliser des tableaux extrêmement variés. Autrefois, on pensait que la maladie s'achevait toujours dans un affaiblissement définitif de toutes les facultés intellectuelles, d'où le terme de « démence précoce » utilisé au XIXe siècle. On sait aujourd'hui que cette évolution grave n'est nullement obligatoire et c'est la raison pour laquelle on a préféré la désigner sous le nom de schizophrénie. Mais le polymorphisme considérable de la maladie rend difficile de préciser ses limites. En France, la psychiatrie traditionnelle restreint volontiers son cadre aux formes à évolution chronique dans lesquelles la scission du psychisme est manifeste. On appelle alors les formes aiguës bouffées délirantes et les formes chroniques mais sans scission du psychisme manifeste délire chronique.
Voilà un extrait de l'émission Heure de culture française avec la voix du docteur Pichot, psychiatre en 1963 sur la RDF. Raphaël Gaillard, on entendait dans cette archive, voilà, c'est la maladie mentale qui présente la plus grande gravité sociale. Est-ce le cas ?
Je pense que ça reste le cas. Je suis toujours touché d'entendre ces archives d'un autre temps, avec une autre diction, et qui pour autant disent à peu près la même chose que ce que nous pourrions nous dire aujourd'hui, Boris Chaumette et moi-même, puisque tout ce qu'a dit là le professeur Pichot, nous pourrions le redire ensemble, c'est vraiment frappant. Ça veut dire que c'est toujours une pathologie invalidante chez bon nombre de patients, et la question de la scission du psychisme qui donne son nom à la maladie, eh bien reste ce qui donne son nom à la maladie.
Alors on entendait également dans cette archive parler de polymorphisme. Il faut savoir que Eugène Bleuler, donc l'inventeur de ce terme, quand il décrit cette schizophrénie en 1908, il parle déjà de groupe des schizophrénies. Il y a un large spectre de symptômes et de gravité variable, Boris Chaumette.
Oui, c'est des maladies qui sont extrêmement hétérogènes et c'est intéressant de voir que dès la description il y a plus de 100 ans et on passe avec l'archive d'il y a 60 ans, on voit déjà qu'on parlait de maladies polymorphiques, hétérogènes. Donc on a vraiment l'impression qu'on met ensemble dans un groupe des réalités totalement différentes, avec des formes qui vont être extrêmement invalidantes et puis des formes pour lesquelles les symptômes vont être plus légers avec une récupération possible. Mais dans la définition, on reste sur un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui vont être plutôt positifs, qui vont venir... En plus d'un comportement dit normal, ça va être des hallucinations, du délire, des symptômes négatifs avec un retrait social, avec des difficultés à prendre soin de soi, à être dans une vie qu'on qualifie aussi de normale. Il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire derrière le mot normal, mais en tout cas avec des éléments négatifs qui sont en moins par rapport à ce système-là. Et puis la désorganisation. Et ça, c'est très frappant. À la fois dans le terme schizophrénie, dans l'esprit coupé ou éclaté, et en même temps dans les définitions, on entend bien que ça, il y a quelque chose qui fait irruption dans la vie psychique de la personne et qui vient fragmenter le raisonnement, le comportement. Et donc ces trois ensembles de symptômes, positifs, négatifs et désorganisation, restent un triptyque qui est constant depuis 100 ans, alors que d'autres maladies psychiatriques ont été complètement redéfinies, même récemment. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de la schizophrénie qui s'inscrit dans la durée, y compris dans la définition.
Voilà, quand on parle de symptômes positifs, on parle aussi de symptômes productifs, comme vous dites. C'est des symptômes où on a vraiment quelque chose de très actif, des délires, des hallucinations. Alors comme vous venez de le dire, avec ce panel, ce tableau clinique très varié, Raphaël Gaillard, les ressentis sont pluriels, mais ce qui est souvent commun, c'est le sentiment d'étrangeté, c'est ça ? C'est souvent ce sens de différence de soi. Le trouble mental paraît loin de nous.
Le trouble mental, pour celui qui l'observe, oui. Le caractère étrange, le caractère bizarre de l'expérience de l'autre, de son comportement. À tel point d'ailleurs que notre sémiologie, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes que nous repérons, est souvent marquée par ce champ sémantique de l'étrangeté. En partant, encore une fois, de l'étymologie, hein, donc schizophrénie, pour le préciser, hein, schizaine c'est coupé, phrénos c'est l'esprit, donc c'est l'esprit coupé, et c'est cette idée que quelque chose se désorganise dans la pensée en étant accompagné soit de choses qui viennent en plus, le terme positif trouble un peu, mais les choses qui viennent en plus, les hallucinations, le délire, ou en moins, l'envie de faire des choses, le besoin de la vie en société, etc., ce qui fait notre quotidien. Et au cœur de tout ça, il y a quelque chose du rapport à la réalité, du rapport aux autres, puisque nous faisons partie de la réalité, évidemment, qui est altéré et qui fait que la schizophrénie ou les schizophrénies font partie des maladies que nous qualifions de psychotiques, c'est-à-dire qui sont marquées par l'altération du rapport au réel, avec donc une étrangeté pour le patient. Ce qu'il vit est étrange, bizarre, angoissant souvent, et pour celui qui l'observe, quelque chose qui peut paraître irrationnel, et en amont du caractère irrationnel, quelque chose qui n'est pas commun, quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui n'est pas tout à fait le quotidien, et suscite un sentiment d'étrangeté.
Alors tout cela, il faut le dire d'entrée de jeu, ça a favorisé également, on peut le dire tout de suite, hein, c'est une maladie qui est quand même très stigmatisée, alors qu'il n'y a pas plus, par exemple, d'agressivité chez les schizophrènes que chez le reste de la population, Raphaël Gaillard.
Alors c'est important de le dire parce que les patients souffrant de schizophrénie sont bien plus souvent victimes de violences qu'ils ne sont l'auteur de violences. Il peut arriver que dans le contexte d'hallucinations, par exemple, envahissantes, qui poussent à faire des choses, un patient puisse avoir un comportement violent. Mais en fait, c'est très rare. Et il est beaucoup plus fréquent d'être victime quand on souffre de schizophrénie que d'être l'auteur de violences. Donc c'est très important de séparer ça fait partie des idées reçues qui accompagnent cette maladie, la schizophrénie de l'idée de la violence.
Oui, Chomette.
Oui, c'est vraiment une idée reçue qu'il faut casser sur l'association entre l'amalgame, si on peut dire, entre violence et schizophrénie. Les personnes peuvent être amenées à se faire du mal. Il y a des risques de suicide, par exemple. On sait que 5% des personnes ayant une schizophrénie vont se suicider.
Et un patient sur deux qui fait une tentative, au moins une tentative de suicide au cours de sa vie.
Oui, c'est énorme. C'est-à-dire que les personnes sont avant tout dangereuses pour elles. Et c'est bien ça qu'il faut mettre en avant et apporter des soins et pas du tout stigmatiser. Au contraire, la stigmatisation qui consiste à dire cette personne est étrange, attention, possiblement dangereuse, elle va maintenir des individus qui souffrent de cette maladie en dehors des systèmes de soins. Va les repousser, va faire que il y aura un tabou autour de la maladie et que les gens vont venir à des soins beaucoup plus tard. Donc l'enjeu de la stigmatisation, c'est d'abord de faire société tous ensemble. Tomber les tabous sur les maladies mentales, c'est important pour intégrer, favoriser la relation sociale avec les personnes malades. Mais c'est aussi un enjeu de soins aujourd'hui pour rapprocher ces personnes de la médecine et leur permettre d'accéder à des soins qui peuvent gérer les symptômes et leur permettre une meilleure récupération.
C'est important en effet de faire tomber ces tabous et puis aussi ces préjugés, parce que ce qu'il faut dire également, Boris Chomette, c'est qu'on peut vivre normalement en étant schizophrène.
Alors, comme il y a tout un spectre, il y a des personnes qui évidemment vont être très en difficulté avec leurs symptômes, qui vont avoir besoin d'une institutionnalisation, qui vont avoir du mal à gérer le quotidien. Mais à l'autre extrémité du spectre, il y a des gens pour qui vous pourriez absolument pas savoir qu'ils ont des symptômes. Il y a quand même la notion de chronicité dans la maladie. Donc, ce n'est pas une maladie qui va disparaître. Mais par contre, vous avez des gens qui, aujourd'hui, ont un travail, ont une vie de famille. Et donc, ces personnes-là, il faut aussi les mettre en avant. Il y a même certaines personnes qui, aujourd'hui, se forment sur leur maladie, ce qu'on appelle des experts de vécu ou des pères aidants, pères PAIR, et qui vont enseigner leur savoir autour de la maladie à d'autres personnes qui souffrent des troubles.
Raphaël Gaillard.
Oui, je pense que le danger, c'est de faire de l'étrangeté une altérité fondamentale et donc quelque chose qui fait l'objet du rejet. Alors que il nous faut penser cette étrangeté comme quelque chose qui peut même enrichir notre façon de penser. Quand je dis ça, c'est pas pour considérer que c'est juste une autre façon de voir le monde, parce que les personnes souffrant de schizophrénie sont avant tout des personnes qui souffrent, et il faut les soulager, il faut les soigner. Mais dans le même temps, il faut que nous soyons capables de percevoir que cette étrangeté, eh bien, elle est à accueillir comme quelque chose qui, au fond, est au cœur de notre humanité.
Quelles sont ces personnes qui souffrent de schizophrénie? Quelle est l'épidémiologie de cette maladie, Boris Chomette?
Alors, on dit que c'est une maladie qui représente à peu près 1% de la population. C'est vrai dans le monde entier. Comme c'est des formes très variables, évidemment, on a tout le spectre possible. 1% des personnes, ça veut dire qu'il y a un demi-million de Français aujourd'hui qui souffrent de schizophrénie. Donc ça représente un nombre colossal et c'est une maladie fréquente. On n'a pas l'impression d'ailleurs qu'il y en a autant quand on regarde un peu les choses, mais toutes les maladies psychiatriques sont des maladies fréquentes. C'est pour ça qu'il y a un enjeu aujourd'hui aussi de mettre sur la place publique un débat autour de ces maladies-là. Et cette année est une année où on a la grande cause santé mentale en France, vous faites des émissions autour de ça, donc ça contribue aussi à faire connaître ces maladies. Et c'est important parce que c'est des maladies qui peuvent toucher des gens de notre famille, des voisins, des amis, des personnes au travail. C'est pas du tout rare comme maladie. Après, il y a des formes qui sont des formes rares à l'intérieur, des formes qui vont parfois débuter très très tôt dans l'enfance, c'est plutôt rare, des formes qui plutôt tardives qui sont aussi rares. Mais globalement, quand on les met tout ensemble, ces formes-là, c'est des formes qui sont extrêmement fréquentes.
Raphaël Gaillard, c'est une maladie qui semble plus fréquente chez les personnes qui vivent en milieu urbain.
Alors, dans l'épidémiologie, 1%, c'est le chiffre qu'on peut retenir, et il est à peu près valable partout. Ça veut dire que vous retrouverez ce chiffre aussi bien en Australie que en Nouvelle-Guinée ou en Arkansas. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui interroge. Pourquoi c'est ubiquitaire? Pourquoi, sous toutes les latitudes et toutes les longitudes, il y a à peu près 1% des êtres humains qui souffrent de schizophrénie? C'est en soi intéressant. Maintenant, si on regarde dans le détail précisément. C'est vrai qu'on voit des variations, mais c'est vraiment en regardant dans le détail. Et on s'aperçoit en effet qu'il y a un effet de l'urbanicité, c'est-à-dire que la fréquence, l'incidence de la schizophrénie est un peu plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural. Il y a quelques facteurs qui sont associés aussi à cet effet de l'urbanicité. Ce sont des éléments qui nous interrogent sur l'épidémiologie de la schizophrénie, mais je pense qu'en amont de ces variations liées à l'urbanicité, le fait de retenir que ça touche l'être humain, où qu'il soit, est beaucoup plus important. Parce qu'au fond, ça veut dire que c'est au fond une caractéristique des êtres humains. Que vous naissiez en Australie ou au pôle Nord, eh bien, vous avez malheureusement une chance sur 100 d'être affecté de cette maladie, dont l'expression sera très variable, c'est-à-dire parfois très invalidante et parfois tout à fait peu, puisque ce sont en fait un spectre de maladies.
Alors, quels sont ces facteurs liés à l'urbanicité? Quelles sont les causes et les facteurs de risque de cette maladie? Reste à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Raphaël Gaillard et Boris Chaumette, nous parlons de schizophrénie. On vient de voir que cette psychose se caractérise par la distorsion de la réalité, des pensées délirantes, des hallucinations, une désorganisation de la pensée, et puis globalement un tableau clinique très varié, avec une fréquence quand même en France et dans tous les pays du monde. Maintenant, quelles sont les causes et les facteurs de risque? Puisque c'est une maladie dont l'origine est plurifactorielle. Il y a un facteur génétique et il y a un facteur environnemental, Boris Chaumette.
Oui, tout à fait. Ce sont des maladies pour lesquelles la génétique joue beaucoup et l'environnement joue également. Si on veut se convaincre de la partie génétique, c'est assez facile de regarder ce qui se passe dans les familles. Si on a un père ou une mère qui souffre de schizophrénie, le risque pour soi, il est multiplié par 10. On a 10% de risque de développer soi-même une schizophrénie. Vous pourriez me dire, oui, mais parce que c'est l'éducation parentale qui a fait. Alors, regardons ce qui se passe pour des jumeaux. On a la possibilité d'avoir aujourd'hui deux types de jumeaux, les jumeaux qui sont des faux jumeaux. Le patrimoine génétique qui est à peu près celui d'un frère et d'une sœur, donc ils partagent 50% de leur ADN, et leur risque, il est aussi de 10%. D'accord ? Maintenant, si on prend des vrais jumeaux, qui là sont identiques génétiquement, 100% de leur patrimoine génétique en commun, si l'un souffle de schizophrénie, l'autre a un risque sur deux. C'est multiplié par 50. Donc la génétique joue indéniablement. Et c'est pas juste un facteur environnemental, sinon on aurait le même mesure entre les vrais et les faux jumeaux. Donc ça, c'est une démonstration évidente, connue depuis 20, 30, 40 ans, que la génétique joue un rôle important. Maintenant, on connaît les facteurs génétiques, on peut les décrire, on les a identifiés, en tout cas un grand nombre. Et on voit qu'en même temps, si on a 100% de l'ADN en commun, deux vrais jumeaux ont 100% de l'ADN en commun, ils n'ont qu'un risque sur deux, entre guillemets. Donc on peut dire, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. La génétique joue beaucoup, mais la génétique n'explique pas tout. Et le reste, c'est le poids de l'environnement. Et il y a des facteurs qui sont des facteurs qui interviennent très tôt dans le développement. Le manque d'oxygène à la naissance, par exemple, des perturbations, même des fois in utero, dans le ventre de la mère. Et puis des facteurs qui vont être autour de l'adolescence, et ça va être le stress psychosocial et le cannabis. Et je mettrai en numéro un même le cannabis, qui est le facteur environnemental qui augmente le plus le risque de développer une schizophrénie. Et c'est celui qui est aussi le plus facile à éviter. C'est difficile d'éviter un problème pendant la grossesse. Par contre, le cannabis, on peut essayer de s'en tenir éloigné.
Le cannabis, substance psychogène. D'ailleurs, pourquoi la schizophrénie débute généralement chez l'adolescent ou le jeune adulte, entre 15 et 25 ans, Boris Chaumette?
C'est une période de vulnérabilité psychique. On sait qu'il y a des différents timings dans le développement du cerveau.
Donc, psychique et cérébral?
Cérébral, tout à fait. C'est les deux en même temps. D'ailleurs, si on a des adolescents, on voit bien que c'est le moment où ils s'émancipent de la maison, où ils font des rencontres, où ils vont des fois même malheureusement tester certaines substances nocives. On le voit bien ça. Mais c'est aussi une fenêtre de vulnérabilité dans le développement même des neurones, ces cellules du cerveau. C'est-à-dire qu'on sait que le cerveau, il se développe dès la période in utero, dès la petite enfance, mais il y a une deuxième fenêtre qui est l'adolescence, où on va, ce qu'on appelle, élaguer les synapses. En fait, on apprend à l'adolescence en supprimant des connexions entre les neurones. On a un deuxième phénomène à l'adolescence, c'est des, ce qu'on appelle la gaine de myéline. C'est une sorte d'isolant autour des neurones qui permet que l'électricité passe plus rapidement d'un neurone à l'autre. Ça aussi, la myélinisation, la mise en place de cette gaine isolante, elle a lieu à l'adolescence. Elle se poursuit même jusqu'à l'âge de 30 ans. Et donc on voit bien que si à ce moment-là, dans l'adolescence. Il y a un écart qui se produit soit en termes de suppression des connexions, soit en termes d'isolant. À ce moment-là, on va favoriser l'apparition de maladies. D'ailleurs, beaucoup de maladies psychiatriques commencent à l'adolescence. Donc il y a ce double risque, un risque biologique et en même temps une demande sociale, un environnement qui change à l'adolescence. Donc on fait le lit là, et possiblement, de décompensation psychiatrique et en particulier de développement de schizophrénie dans cette période critique de l'adolescence.
Dans trois quarts des cas, la schizophrénie n'est pas une maladie d'apparition brutale. Elle débute par des symptômes atténués, des symptômes annonciateurs qui passent souvent sous le radar. Raphaël Gaillard, comment se pose le diagnostic de cette maladie qui est souvent un diagnostic tardif?
Oui, parce qu'il n'y a pas, il faut le rappeler, d'examen biologique, d'examen d'imagerie qui puisse asseoir à ce jour notre diagnostic. Ce sera probablement différent demain et nous y travaillons tous pour que les choses évoluent, mais à ce jour, le diagnostic est purement clinique et il repose sur un faisceau d'arguments cliniques qui sont en fait les symptômes repérés sur le triptyque, la triade qu'a évoqué le docteur Chaumette tout à l'heure, la désorganisation, ce qui est presque le primum movens de la maladie, ce qui donne son nom, la dissociation, la schizophrénie, et puis ce qui vient en plus, délire, hallucination, et en moins, essentiellement la motivation et l'envie de faire société, d'être avec les autres. Et donc, nous avons une série de critères diagnostiques sur lesquels nous nous accordons, qui évoluent au cours du temps, qui font l'objet de consensus, pour lesquels nous réunissons, soit à l'échelle de l'OMS, soit à l'échelle de grandes associations, dont l'American Psychiatric Association, pour définir des critères diagnostiques qui nous permettent de poser ce diagnostic. Là où les choses restent de fait fragiles, c'est que nous ne pouvons pas appuyer notre diagnostic, comme j'ai dit initialement, par un examen biologique qui, comme la glycémie, par exemple, permettrait de définir l'état de diabète ou de pré-diabète comme ça existe en diabétologie.
Dans notre dernier épisode consacré à la bipolarité, on apprenait que justement cette maladie mentale, la bipolarité, était souvent confondue avec la schizophrénie et vice-versa, Raphaël Gaillard.
Oui, et d'ailleurs il y a des liens, y compris génétiques, de déterminants communs entre ces deux maladies. D'ailleurs, elles débutent aussi typiquement dans cette période de vulnérabilité des 15-25 ans. Donc ce sont c'est le moment d'éclosion de ces grands troubles. Que sont les troubles bipolaires et les schizophrénies, et parfois avec des formes communes. Il existe d'ailleurs même une forme qu'on appelle trouble schizoaffectif, qui est une sorte de conjonction, de réunion en fait, entre la schizophrénie et le trouble bipolaire, d'où ce terme de schizoaffectif pour rendre compte de cette réunion possible des deux. Donc c'est pas aberrant de considérer qu'il existe des points de passage entre bipolarité et schizophrénie et inversement.
Un premier épisode psychotique, c'est pas toujours une entrée dans la schizophrénie. Il y a certains jeunes qui vont évoluer vers d'autres troubles, il me semble, Boris Chaumette.
Oui, tout à fait. Et comme vient de le rappeler le professeur Raphaël Gaillard, il peut y avoir des symptômes qui sont dits atténués, c'est-à-dire qu'on peut repérer assez tôt parfois, même avant l'âge de 15 ans, on peut commencer à avoir des petites bizarreries, des patients qui vont rapporter avoir des distorsions, c'est-à-dire que les couleurs se modifient ou les formes se modifient. Et en fait, ils vont pas tous évoluer vers une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Parfois, même certains vont récupérer de ces symptômes-là. Il y a des petites alertes, si vous voulez. Et en fait, le vrai changement qu'il y a eu aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut intervenir le plus tôt possible, avant même l'évolution vers une schizophrénie ou vers un trouble bipolaire. Alors évidemment, s'il y a un premier épisode psychotique, comme vous le disiez, là, on est vraiment au-dessus juste des petits symptômes. Là, il y a déjà eu un délire, des hallucinations, ce qui ne veut toujours pas dire que c'est une schizophrénie. Parce que ça peut évoluer aussi vers un trouble bipolaire, par exemple. Ou parfois, ça va juste rentrer aussi dans l'ordre, après même un premier épisode. Donc en fait, c'est ça qui rend un peu les choses confusionnantes pour les gens, c'est qu'il peut y avoir des moments où la personne ne va pas très bien, où il peut y avoir des premiers symptômes, voire même un premier épisode caractérisé. Et en fait, ce qui va permettre d'avoir le diagnostic, c'est la durée. Et c'est là où on est pour l'instant encore en difficulté, nous, psychiatres, c'est comme on n'a pas de biomarqueur, comme le rappelait le professeur Gaillard, et bien en fait, on est obligé de constater l'évolution. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'intervenir quand même le plus tôt possible, dès les premiers symptômes. Et donc le message à faire passer, c'est quand même, si vous avez un doute sur votre santé mentale, n'hésitez pas à consulter le généraliste, voire un psychiatre, etc. Parce que ça peut permettre d'anticiper la suite.
Raphaël Gaillard.
Oui, le recul dans le temps est extrêmement important, c'est essentiel de le dire. Et dans le même temps, c'est pas parce que nous, pour nous psychiatres, il nous faut du recul dans le temps que pour les patients, comme vient de le dire Brice Chaumette, il faut attendre pour consulter. Bien au contraire, plus tôt les patients consultent, mieux c'est. Et puis pour préciser les choses sur le premier épisode psychotique qu'on appelait autrefois bouffée délirante aiguë, sur l'évolution statistique, dans un tiers des cas, l'évolution se fait vers la schizophrénie, dans un tiers des cas vers le trouble bipolaire, donc on voit bien qu'il y a un lien possible, et dans un tiers des cas vers le fait qu'il n'y aura pas de maladie psychiatrique. Ce qui est important de retenir, ça veut dire que cet épisode peut être sans lendemain pathologique, à condition de le prendre en charge, ça veut dire de le soigner au moment aigu de cet épisode psychotique et aussi de poursuivre le traitement assez longtemps pour éviter qu'il ne récidive.
Alors justement, à propos des traitements, une fois voilà ce diagnostic posé, que dispose-t-on ? On a les premiers neuroleptiques qui ont été inventés en 1952 à Sainte-Anne, dans le service que vous dirigez actuellement, Raphaël Gaillard. Ces premiers antipsychotiques sont découverts par Henri Laborie et Paul Deniker. Ce sont la chlorpromazine, pardon. Alors comment fonctionne cet antidopaminergique ?
Alors, vous l'avez dit, comme antidopaminergique. Donc, dans l'histoire, Laborie est un anesthésiste qui teste différentes molécules pour endormir des patients et puis découvre cette molécule qui a un effet de stabilisation neurovégétative, c'est le terme à l'origine. Et l'idée géniale de Jean Delay et Pierre Deniker, c'est d'utiliser cette molécule chez les patients qui se trouvent à l'hôpital, en l'occurrence Sainte-Anne. L'hôpital, à cette époque, n'étant pas vraiment l'hôpital, mais l'asile, puisque, à défaut de soins, c'est plutôt un lieu d'enfermement. Et ils vont découvrir que lorsque l'on donne cette molécule à des patients, eh bien, les patients souffrant de psychose, et vous l'aurez bien compris que le chef de file des psychoses, ce sont les schizophrénies, eh bien, ont un effet bénéfique. Comment ça marche? Alors ensuite, on l'a compris après. Au début, c'était vraiment ce qu'on appelle de la sérendipité. Ça veut dire qu'on essaye, on voit ce que ça donne et on voit que ça marche. Eh bien,
ça fait baisser les hallucinations, par exemple.
Exactement. Et quand vous dites ça fait baisser les hallucinations, il faut le dire de cette façon, hein. C'est-à-dire que les patients peuvent décrire, c'est intéressant pour nos auditeurs qui nous entendent, que au fur et à mesure du traitement, ils ont l'impression qu'on baisse le son des hallucinations, comme les auditeurs pourraient baisser, j'espère qu'ils ne le feront pas, le son de la radio, et donc entendre de moins en moins fortes nos voix. Et ben pour les patients, c'est la même chose. Au gré du traitement, ils entendent de moins en moins fortes les voix qui, au début, les envahissent, et puis que petit à petit, vont être des chuchotements, et puis petit à petit, vont disparaître. Alors, dans un deuxième temps, on s'est aperçu que ce qui était déterminant, c'est que ça agissait sur la transmission dopaminergique. Alors, la dopamine, c'est un neurotransmetteur essentiel dans notre cerveau, donc qui permet de faire communiquer certains neurones, et la chlorpromazine et la plupart en fait des antipsychotiques agissent en bloquant la transmission dopaminergique, surtout sur certains récepteurs qui sont les récepteurs D2 à la dopamine. Mais ça, on l'a compris après, et donc le comprenant, eh bien, on a essayé de faire différentes molécules, et on en a fait plusieurs, qui agissent plus spécifiquement sur ces récepteurs dopaminergiques que la chlorpromazine. Voilà l'histoire en fait des antipsychotiques, une découverte par l'idée assez géniale de Delay et Deniker de reprendre une molécule et de l'utiliser chez des patients qui en bénéficient, puis ensuite une compréhension du fait que agir sur la dopamine, ça marche, même si ce n'est peut-être pas, nous n'avons pas le fin mot, la cause de la maladie.
Oui, parce que voilà, tout ça, c'est la conviction de nombreux cliniciens que la cause de la schizophrénie est un déséquilibre de cette fameuse dopamine, vu que les traitements fonctionnent. Mais la suite des recherches a révélé que la dopamine n'est pas le seul neurotransmetteur qui intervient dans la schizophrénie, Boris Chaumette.
Oui, tout à fait. La meilleure preuve, c'est que je parlais tout à l'heure du cannabis. Le cannabis se fixe sur des récepteurs endocannabinoïdes et vient perturber le psychisme, créer des symptômes psychotiques. Donc on voit bien que c'est un autre mécanisme. En fait, comme on le disait tout à l'heure, la schizophrénie, c'est une maladie hétérogène, d'abord d'un point de vue clinique, quand on voit les symptômes des patients, mais aussi d'un point de vue biologique. Ce qui fait que si on donne des traitements dopaminergiques, et tous nos traitements, depuis Delay et Deniker et l'invention de la chlorpromazine, sont des traitements qui ciblent la dopamine. Plus ou moins fort, plus ou moins tel ou tel récepteur dopaminergique, mais globalement, ils sont tous concentrés là-dessus. Et donc, on tape toujours un peu sur la même cible. Il y a probablement des patients pour qui ce n'est pas la bonne cible. c'est peut-être un autre neurotransmetteur comme le glutamate. Pour d'autres, c'est peut-être du GABA, peut-être des balances excitation, inhibition cérébrale, peut-être les endocannabinoïdes, etc. Et donc finalement, derrière cette réalité qui est très variée, on a une seule réponse qui est de jouer sur la dopamine. Et c'est très probablement pour ça que vous le disiez en introduction de l'émission, on n'a que 30% des patients qui répondent bien, parce qu'on laisse beaucoup de patients sur le carreau à cause du fait qu'on n'a pas de molécules pour jouer sur les autres récepteurs. Et donc ça, c'est un peu, il y a une nouveauté un peu maintenant, parce qu'il y a un médicament qui vient d'arriver, qui est la xanomeline, mais qui est commercialisé uniquement pour l'instant aux États-Unis. Les études ont été assez convaincantes pour qu'il soit mis sur le marché, on ne l'a pas en France. Mais il y a des, c'est une molécule qui va jouer sur d'autres récepteurs qui sont des récepteurs muscariniques, qui font des rétro-contrôles sur la dopamine, sur le glutamate, etc. C'est un peu compliqué dans le détail, mais en gros, on commence à avoir d'autres stratégies. Et l'enjeu aujourd'hui va être de dire, quand j'ai une personne qui souffre de schizophrénie, quelle est sa réalité biologique à elle ? Qu'est-ce qui se passe chimiquement dans le cerveau qui me permettrait d'utiliser un autre levier thérapeutique ? On est en train de rentrer dans une ère de psychiatrie de précision. C'est-à-dire de dire, on ne soignera pas les gens avec toujours le même type de molécule. Il y a des personnes qui vont bénéficier de certains traitements et d'autres molécules qui modulent d'autres voies. Même si les symptômes sont approchants, la réalité biologique est différente et il faut traiter différemment.
Là, on parle évidemment des solutions médicamenteuses, mais Raphaël Gaillard, il y a évidemment toute la prise en charge psychosociale, hein, la prise en charge non médicamenteuse qui est elle aussi essentielle.
Mais bien sûr, je me le disais d'ailleurs tout à l'heure quand vous faisiez la différence en interrogeant Boris Chaumette entre psychique et biologique. En fait, nous ne sommes pas dualistes, c'est-à-dire nous pensons que tout s'incarne. Pour autant, il ne s'agit pas de considérer seulement le levier biologique. Nous sommes des êtres de parole, nous sommes des êtres sociaux et le soin passe énormément par ce champ de la parole et du lien social. Et donc, évidemment, qu'il est essentiel que de construire une relation thérapeutique, qui passe par les liens entre soignants et patients, qui passe aussi maintenant par les liens entre patients eux-mêmes, y compris avec la paire aidance qui a été évoquée tout à l'heure, qui permet de construire quelque chose qui a une vocation pérenne et qui n'est pas que la biologie.
Alors comment la recherche avance-t-elle pour mieux comprendre les causes de cette psychose et quelles sont les autres pistes thérapeutiques à l'étude ? Restez avec nous.
Je comprends pourquoi cette envie de tout brûler. On a poussé au cœur du magma. Tous les moyens étaient bons pour gruger. Et maman qui jouait le rôle de papa montre aucun signe de faiblesse, soit précoce. L'école nous enferme, bien sûr qu'on décroche. C'est donnant, donnant, violent, violent. Je sais c'est dur, accroche-toi de toutes tes forces. Ici c'est gagner le respect sans dire merci. Baiser les règles et faire jouir cette vie. Quand violence fait loi, le climat se dérègle. Là où l'aveugle est roi, le témoin est bègue. Sûrement qu'on manquait peut-être d'un cadre. Mais fuck les mises en garde, on se fout de leur avis. Moi je m'étonne même plus quand tu pètes un câble, sans capter que tu peux y laisser ta vie. Mais ce soir il a suffi d'une fois, d'un mauvais trip, un mauvais mélange, pour que les drogues de synthèse te foudroient. Et que tu t'en ailles tutoyer les anges. Cerveau disloqué, convulsion hardcore. Et plus personne à bord pour piloter. Juste des potes te ramènent à la maison. Mais trop tard pour qu'on te ramène à la raison. La chair de ma chair s'en est allé dans des régions trop sombres. Et je découvre ce putain de scanner qui nous parle de tes lésions profondes. Impossible de vivre normalement. J'ai volé le sourire de la Joconde. Et je crois que plus rien ne sera jamais comme avant. Elle s'est envolée la
blessure
colombe.
Blessure m'ont bousillé le crâne. Mais si je dois sécher tes larmes, j'irai plonger dans le cerceau, me jeter dans les flammes. Pour t'aider à retrouver le calme, que le mauvais sort nous épargne. J'y laisserai corps et âme. Je dois sécher tes larmes.
Scanner de Gringe qui chante le suicide de son frère atteint de schizophrénie. Nous sommes en direct sur France Culture et nous parlons de cette pathologie avec nos deux invités du jour. Raphaël Gaillard, psychiatre, professeur de psychiatrie à l'Université Paris Descartes, responsable du pôle psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne et président de la fondation Pierre Deniker et membre de l'Académie française. Et Boris Chaumette, maître de conférence à l'Université Paris Cité, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, chercheur INSERM et professeur adjoint à l'Université McGill à Montréal. Parlons aujourd'hui, enfin tout de suite, des causes
choses que l'on cherche à cerner, de recherches un peu plus fondamentales, Raphaël Gaillard, avec notamment cette recherche qui vise à comprendre la physiopathologie du trouble et notamment ce qui sous-tend la conscience.
Oui, alors j'aimerais que nous essayions de comprendre juste le fait que notre cerveau, qui est un organe fascinant avec 85 milliards de neurones qui font 1 000, 10 000 connexions, son orchestration tient lieu du miracle. C'est pas simple en fait d'avoir un fonctionnement harmonieux avec 1 000 000 000 000 000 000 de connexions. Et l'harmonie se produit notamment sous la forme de la conscience. Ce que produit notre cerveau, c'est notre conscience. C'est-à-dire que nous pouvons être conscients de choses. Et être conscient de choses, c'est en fait représenter le monde, avoir conscience des mots que nous utilisons, des images que nous avons en tête, plutôt que le monde lui-même. C'est ça la faculté de notre cerveau, c'est recréer le monde en pensée. Et je redis, arriver à le faire, en fait, c'est miraculeux. Et c'est tellement miraculeux qu'il suffit qu'il y ait un tout petit décalage. Il suffit qu'il y ait juste un peu de friture sur la ligne, la myéline qu'évoquait le docteur Chaumette tout à l'heure, qui permet une conduction parfaite entre neurones, le long des neurones. Et bien, il suffit que ces petits décalages s'installent pour que, en fait, cette production harmonieuse se désorganise. Et si elle se désorganise, en fait, elle se dissocie. Elle se désintègre d'une certaine façon, et c'est exactement ce qui ferait l'expérience de la schizophrénie. En résumé, nous pensons que notre cerveau produit des choses d'une très grande complexité, dont la conscience. Cette conscience, elle nous permet de nous représenter le monde, mais il suffit de petits décalages pour que nous puissions dériver par rapport au réel, et ne plus être en lien avec le réel, que nous puissions prendre des vessies pour des lanternes, que nous puissions penser que ce que produit notre cerveau vient de l'extérieur, alors que c'est produit par notre cerveau, et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous faisons l'expérience d'une hallucination. Probablement, en fait, la schizophrénie illustre la propension que notre cerveau a, chez les êtres humains, les sapiens que nous sommes, de nous séparer du réel. Et c'est pour ça, c'est intéressant de penser que c'est la quintessence du fonctionnement de l'être humain, en fait, la schizophrénie, y compris dans la pathologie.
Voilà, ce petit décalage, de petites désorganisations qui perturbent comme ça la coordination, qui amène à la conscience. Ça va pour ça, Raphaël Gaillard, on a aussi des expériences qui nous permettent de modéliser cet accès à la conscience.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas un point de vue philosophique, même si on peut aussi l'aborder d'un point de vue philosophique. Pour ça, il existe des neurosciences de la conscience et qui consistent, par exemple, à comparer la façon dont nous traitons une information qui est non consciemment perçue, en comparaison, donc, d'une information consciemment perçue. Pour ça, c'est assez simple, hein. On rend un stimulus, c'est-à-dire une perception subliminale. Et de cette façon, on peut faire en sorte, par exemple, qu'un mot ne soit pas consciemment perçu. C'est les conditions de perception subliminale masquée qui font souvent fantasmer, mais qui, pour nous, sont l'objet d'études. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que un patient avec schizophrénie a une perception non consciente, c'est-à-dire subliminale, qui est tout à fait comparable à celle de tout un chacun. Par contre, si on rend cette perception juste au seuil de la conscience, eh bien, c'est justement là qu'on observe les perturbations. Et donc, c'est bien dans l'accès à la conscience que se produisent les modifications du fonctionnement psychique dans la schizophrénie, sur la base de ces micro-décalages qui suffisent en fait à désorganiser et à générer cette maladie, la schizophrénie, cette désorganisation de notre espace psychique, notre conscience.
Raphaël Gaillard, il y a quand même une difficulté également à pouvoir étudier cette maladie, puisque, comme on l'a dit, hein, chaque patient est différent. Or, en science, pour avoir des données les plus homogènes possibles, il faut avoir le moins d'hétérogénéité entre les personnes testées. Alors, comment on contourne justement cette difficulté?
Alors, c'est une excellente question parce que non seulement il y a l'hétérogénéité, mais quand on fait des études chez les patients, il y a un facteur confondant, c'est que heureusement, ils bénéficient de traitement. Et donc, parfois, ce qu'on mesure, c'est les effets du traitement plutôt que la maladie elle-même. Et donc, une façon de contourner cette difficulté, c'est de créer expérimentalement quelque chose qui ressemble à la maladie. Et pour ce faire, on peut utiliser des substances qu'on appelle des substances psychotomimétiques, c'est-à-dire qui simulent les symptômes psychotiques de façon transitoire, de façon très contrôlée, de sorte qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe au tout début de la maladie. Par exemple, si on utilise une substance comme la kétamine à faible dose ou bien certaines substances psychédéliques, eh bien on peut observer les tout premiers temps de survenue des symptômes psychotiques chez des personnes qui n'ont aucune pathologie, pour mieux comprendre ce qui se passe au tout début de la maladie. D'ailleurs, c'est pas seulement l'hétérogénéité, c'est pouvoir être là au tout début de la maladie. Et donc ça, on peut le rendre opérationnel dans un contexte très contrôlé, dans des protocoles de recherche validés par des comités d'éthique, bien évidemment, qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est le début de la maladie et, au passage, aussi, de tester des molécules qui permettraient de corriger ces premiers symptômes. Parce que là, c'est intéressant. Je prends l'exemple de la kétamine à faible dose, qui va produire des symptômes de type de l'étrangeté, la bizarrerie que nous avons évoquée tout à l'heure. Si vous donnez un pur dopamine bloqueur, eh bien, ça ne va pas corriger ces symptômes. Et donc, vous constatez à ce moment-là que ce début des symptômes, ben c'est probablement pas la dopamine, mais c'est justement le glutamate que Boris Chaumette a évoqué tout à l'heure, qui serait la molécule ou la voie de transmission d'intérêt et qu'il faut utiliser. Et vous allez pouvoir tester donc une série de molécules qui seraient efficaces ou d'autres voies de transmission comme la xanoméline qui a été évoquée tout à l'heure.
Alors pour étudier les causes, on peut le faire avec différentes approches, la génétique, mais également l'imagerie ou l'immunologie. On aborde cette question avec le reportage du jour. Dans l'étude des mécanismes cérébraux à l'origine de la schizophrénie, un lien a été mis en évidence au niveau génétique entre la schizophrénie et le système immunitaire. On continue d'en parler avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Pour comprendre la nature de cette relation, vous êtes allée à l'Institut du Fer à Moulins où une étude pointe le rôle d'un gène spécifique.
Oui, le gène C4 qui est surexprimé dans le groupe cognitif. Or, la mutation de ce gène, qui est un acteur de l'immunité, prédispose à la maladie. Le neurobiologiste Quentin Lemagrès étudie ce lien sur des modèles murins. Au stade embryonnaire, il insère des copies du gène en ciblant les zones du cortex. Résultat, en augmentant artificiellement le niveau de C4, on observe une réduction des connexions neuronales, des dysfonctionnements qui amènent à ouvrir de nouvelles cibles thérapeutiques.
Ici, on est dans le site historique du Fer à Moulins et vous êtes dans un espace très classique de paillasse. Moi, je m'intéresse principalement au rôle du système du complément, qui est un système bien connu dans l'immunité, dans la construction des réseaux neuronaux au cours du développement cérébral.
Quand vous parlez de complément, on parle par exemple de complément C4 qu'on associe à l'action du gène C4 qui traduit le lien entre l'immunité et quelques dysfonctionnements cérébraux.
Tout à fait. Le complément C4 appartient à ce qu'on appelle la cascade du complément, qui est un ensemble de protéines qui sont très importantes dans le système immunitaire. Donc on a utilisé des techniques qui sont des techniques de modification génétique, grossièrement. Donc on est capable d'introduire des gènes dans certains types neuronaux spécifiques.
Ce sont des copies du gène, en fait.
Ce sont des copies du gène.
Qu'on introduit dans des sites bien localisés au niveau du cerveau.
Qu'on introduit dans des progéniteurs de neurones, donc des cellules qui vont donner ensuite des neurones au sein du cerveau de souris. Et dans des zones très localisées. On est capable de cibler ça de manière très précise avec une technique qui s'appelle l'électroporation in utero.
Donc ce sont sur des embryons de souris qu'on induit ces modifications?
Exactement. Donc on induit dès le stade embryonnaire ces modifications, parce que chez l'humain, c'est aussi des modifications qui sont présentes très tôt au cours du développement. Donc on force ces modifications dès le stade embryonnaire, et on peut étudier ensuite, beaucoup plus tard, à l'adolescence de la souris, ce que ça induit en termes de changements dans les circuits neuronaux, mais aussi ce que ça induit en termes de changements de comportement chez la souris. Et ça, c'est une manière de corréler nos altérations des circuits qu'on peut observer chez la souris, et puis certains comportements qui sont modifiés chez la souris, mais qu'on peut relier à des comportements qui sont aussi altérés dans la schizophrénie.
Alors évidemment, par exemple, une surexcitation ou au contraire une perte de fonction cognitive.
Exactement. Alors c'est une perte de fonction cognitive. Chez la souris, on fait apprendre des suites d'odeurs qu'elles doivent reconnaître, un maximum d'odeurs qu'elles doivent reconnaître dans un temps très court pour obtenir une récompense. Et les souris qui n'ont pas leur gène modifié sont très fortes pour réussir ce test. Et en revanche, on a observé que les souris chez lesquelles on avait modifié ce gène du complément n'étaient pas capables de retenir autant d'odeurs pendant un temps court que les souris chez lesquelles on n'avait pas introduit des copies surnuméraires de ce gène. Et donc on peut faire le lien entre cette dysfonction de la mémoire de travail chez la souris et chez les patients. Alors là, on a d'autres aspects qui sont un petit peu plus spécifiques. Je vais vous emmener dans une salle où on fait beaucoup d'électrophysiologie. C'est-à-dire qu'on est capable d'enregistrer des courants au sein de neurones. Donc c'est des courants extrêmement faibles, et donc on a besoin d'un appareillage très spécifique pour faire ça. On a des amplificateurs qui permettent d'amplifier le signal qui est extrêmement petit. Hein. Le signal porté par une synapse, c'est de l'ordre du picoampère. Donc c'est des tranches de cerveau qu'on prépare à partir des cerveaux de souris, qu'on peut maintenir en vie pendant plusieurs heures grâce à des solutions spécialisées qui reflètent un peu la composition des liquides qu'on a dans le cerveau et qui nous permettent ensuite d'aller planter nos électrodes dans des neurones, un ou plusieurs neurones, et d'enregistrer les communications qui se produisent entre ces neurones.
Et évidemment, faire ça avec cette instrumentation.
Voilà, c'est ce que vous voyez. Donc ouais. C'est un microscope qui est couplé avec plusieurs systèmes de contrôle de microélectrodes, des bras articulés qui nous permettent de positionner extrêmement précisément sous les microscopes les électrodes de manière à identifier les neurones individuellement et d'aller enregistrer leur courant et la manière dont ils communiquent entre eux. Et donc c'est comme ça qu'on va observer les perturbations de la communication synaptique, donc de la communication entre les neurones. C'est en passant par l'analyse des courants électriques
qui s'en vont.
C'est ça qu'on mesure.
Comment techniquement on procède pour introduire une copie d'un gène au bon endroit? Quels sont les outils qu'on utilise?
Alors, c'est de la chirurgie. On utilise des introductions de gènes pendant la gestation, donc c'est évidemment sous anesthésie générale. Et on est capable d'ouvrir la paroi utérine, d'injecter avec un capillaire extrêmement fin à travers la paroi du cerveau de l'embryon, dans les ventricules de l'embryon, dans une zone creuse du cerveau de l'embryon, si vous voulez, un gène, et ensuite on va, grâce à des électrodes qui sont placées autour de la tête de l'embryon, injecter un courant, et selon l'orientation qu'on donne aux électrodes, on est capable de l'envoyer dans une partie très précise du cerveau, ce courant. Le courant va ouvrir de manière transitoire la paroi des cellules qui sont autour des ventricules, et il se trouve que ces cellules en question sont des progéniteurs neuronaux, c'est-à-dire des cellules qui vont donner naissance à des neurones. Donc en faisant ça, on ouvre la paroi de ces progéniteurs à proximité de l'ADN qu'on a injecté dans le cerveau de l'embryon. Ces cellules progénitrices incorporent l'ADN, et à partir du moment où il est incorporé, il va être exprimé et il va engendrer la présence de ce gène surnuméraire pour toute la durée du neurone qui va être généré.
Une question bête, mais à quoi ça sert tout l'alu?
Alors autour, on a des cages de Faraday, de manière à bloquer tous les signaux électriques de l'environnement qui viendraient perturber la détection de nos courants extrêmement faibles.
Ça donne des allures d'engin spatial, du coup.
Oui, c'est vrai. C'est assez particulier, même dans les instituts de recherche. En général, il y a relativement peu de postes d'enregistrement comme ça.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La science au labo. Boris Chaumette, vous souhaitiez réagir à l'écoute de ce reportage?
Oui, parce que je pense que c'est une très belle étude qui est construite dans un laboratoire de pointe. Je voulais rebondir sur la question du C4, parce que le C4 est un des gènes qui a été mis en avant dans des études génétiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait le parallèle avec ce que le professeur Gaillard nous disait tout à l'heure. C'est-à-dire que notre cerveau s'est développé. Et pour se développer, c'est extrêmement difficile de faire une harmonie dans notre cerveau. En fait, le cerveau s'est développé non pas tellement parce qu'on a augmenté le nombre de gènes au cours de l'évolution, mais parce qu'on a recyclé des gènes qui est important pour d'autres organes. Et le C4 est un excellent exemple de ça. Le C4, c'est un gène d'immunologie. Mais c'est aussi du coup un gène qui permet aujourd'hui de favoriser la connexion entre les neurones, la fabrication de synapses. Et donc finalement, entre le chimpanzé et nous, même voir le poisson zèbre, la drosophile qui est une petite mouche, le rat et nous, on n'a pas tellement de gènes en plus. Mais on a utilisé différemment les combinaisons de gènes. Et donc finalement, on sent qu'on pousse avec notre cerveau qui se développe de plus en plus, on pousse le système un peu à bout. Et quelque part, parfois, eh ben oui, on fait craquer le système. Mais c'est aussi parce qu'on a fait du recyclage d'autres gènes qui servaient à d'autres fonctions. Donc c'est la boucle est bouclée un peu quelque part entre la génétique, l'immunologie et la conscience.
Raphaël Gaillard, en effet, les chercheurs étudient actuellement si le système immunitaire peut être en jeu chez une plus grande proportion de personnes qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie.
Oui, c'est un sujet majeur. D'ailleurs, on parle aujourd'hui d'immunopsychiatrie. Et on pourrait dire en fait que nos deux grands systèmes de connaissance du monde, pour l'organisme biologique que nous sommes, c'est le système nerveux central, donc le chef de file, c'est notre cerveau, et le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, il doit connaître le monde pour distinguer ce qui appartient à soi et ce qui n'appartient pas à soi, puisqu'il est censé réagir à ce qui vient de l'extérieur, un virus par exemple, et ne pas réagir à ce qui vient de l'intérieur, sinon ça s'appelle une maladie auto-immune, c'est-à-dire le système immunitaire qui se met à s'attaquer au corps lui-même. Et en fait, ces deux grands systèmes de connaissance du monde, eh ben, ils sont faits pour interagir, et on découvre qu'il y a plein d'interactions entre le cerveau et le système immunitaire, et c'est un domaine de recherche absolument passionnant qui passe par le C4. Alors le C4, on a l'impression, j'entendais Boris dire qu'on craquait quelque chose, mais ça n'est pas un explosif, c'est un gène d'immunologie. Et de fait, on va s'apercevoir qu'il y a plein de liens entre l'immunologie et la psychiatrie. Peut-être même d'ailleurs que certains traitements utilisés en immunologie vont s'avérer être utiles chez nos patients en psychiatrie. C'est déjà le cas dans certaines formes de dépression et on pense que c'est pertinent aussi dans la schizophrénie. Donc c'est une voie de recherche vraiment intéressante.
En effet, il y a des essais cliniques pour déterminer si des immunothérapies peuvent aider les personnes atteintes de schizophrénie. On arrive à vers la fin de cette discussion. Boris Chaumette, quels sont, à vos yeux, voilà, les investissements actuels les plus précis, les plus pertinents pour faire justement avancer cette médecine de précision en matière de maladie mentale?
On a la chance en France d'avoir eu des investissements assez considérables à travers ce qui s'appelle le PEPR Propsy, qui est un gros projet de recherche qui réunit une cinquantaine d'équipes en France. Donc pour le coup, on a vrais investissements aussi collectifs et qui vise à faire de la psychiatrie de précision. C'est-à-dire à dire exactement ce que vous dites tout à l'heure, il faut des marqueurs, il faut développer des nouvelles stratégies diagnostiques et en même temps, il faut qu'on segmente mieux les personnes. Parce qu'aujourd'hui, on traite les gens un peu comme si on traitait de la fièvre avec du paracétamol. Ce qu'il faut faire derrière, c'est comprendre que derrière la fièvre, on peut avoir une infection bactérienne, il faut mettre un antibiotique, on peut avoir une maladie auto-immune, il mettra des corticoïdes, mais il faut surtout pas mettre des corticoïdes dans une maladie bactérienne, etc. Et donc, il faut qu'on arrive à la même chose aujourd'hui en psychiatrie, qu'on reste avec des traitements symptomatiques qui sont nos antidopaminergiques et peut-être d'autres, mais qu'on ait aussi ce regard-là d'aller sur des prises en charge beaucoup plus étiologiques. Et évidemment, intégrer ça avec les psychothérapies, ce qui est essentiel.
Toujours en perspective de recherche, dans ce cadre-là, Raphaël Gaillard, l'IA peut jouer un rôle pour le diagnostic, par exemple?
Oui, l'IA peut jouer un rôle parce que nous avons parlé du diagnostic tout à l'heure qui repose sur un faisceau d'éléments cliniques. Et en fait, l'IA fait ça très bien, réunir des symptômes différents, des signaux faibles en fait pour un diagnostic. D'ailleurs, on sait que dans l'étrangeté, dont nous avons beaucoup parlé, il y a des éléments qui tiennent au discours, au langage dans la schizophrénie. Il y a toutes sortes de symptômes dans le langage. Il y a un rapport à la langue qui devient un peu différent, qui parfois amène presque à substituer le mot à la chose. Je donne souvent cet exemple de ce patient qui voulait plus parler du passé, qui voulait plus voir sa psychothérapeute et qui avait décidé, il me le dit un jour comme ça, avec aplomb, de supprimer les rétroviseurs de sa voiture. Donc on voit bien que c'est un rapport au langage particulier qui a sa poésie. Eh bien, aujourd'hui, des algorithmes d'intelligence artificielle commencent à permettre, je vais être plus prudent, d'identifier dans le discours d'individus qui ne sont pas encore malades, mais qui ont des symptômes très atténués, insidieux, de tout début de la maladie. Ces algorithmes permettent de discriminer ceux qui sont le plus à risque de développer la maladie ensuite. Donc l'étude du langage par l'intelligence artificielle, et on revient à la question centrale du langage, c'est-à-dire nos représentations du monde, eh bien, pourrait être aujourd'hui rendu opérationnel par l'intelligence artificielle.
Voilà, pour ce mot, merci pour ce mot de la fin. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbo, mais déjà un petit rectificatif, une erreur s'est glissée dans cette discussion. Le frère de Gringe a une schizophrénie, mais il ne s'est pas suicidé. Voilà, correction importante qui est faite. Et puis, pour prolonger l'écoute, je rappelle, Boris Chaumette, que votre ouvrage « Schizophrénie et génétique, un ADN de la folie », publié chez Human Science, est disponible dans toute bonne librairie. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure.
Merci.
Tout de suite, on quitte la psychiatrie pour l'astrophysique avec l'observation des quasars. C'est la chronique avec science.
Les quasars sont-ils des tueurs d'étoiles? Les quasars, ce sont les objets les plus lumineux de l'univers. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont été longtemps confondus avec des étoiles, d'où leur nom. Quasar vient de quasi-stellaire. Ce ne sont pas des étoiles, mais des trous noirs supermassifs situés au cœur de galaxies très lointaines et donc primitives. Autour d'eux, la matière s'accumule, s'échauffe et émet une lumière extrêmement intense. C'est ce qui rend le quasar aussi brillant et lui permet de projeter un jet de gaz de part et d'autre de son disque d'accrétion. Et donc un quasar, finalement, c'est un gros et vieux trou noir en train de manger. Des objets extrêmes qui intriguent forcément les scientifiques et dont la formation pose encore question. Pasquier Notre-Dame est chargé de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris.
Alors les quasars, on s'y intéresse d'une part parce que ce sont des objets de très haute énergie, on va dire. Donc simplement les phénomènes physiques en jeu autour du trou noir central, le disque d'accrétion, le gaz, l'environnement, tout ça, c'est déjà un intérêt en soi. Les quasars, par leur luminosité extrêmement élevée, sont également utiles pour sonder l'univers. On en sert de phare pour étudier toute la matière qui se trouve entre le quasar et nous-mêmes. On ne sait pas trop expliquer encore très bien comment ils se forment d'une manière aussi rapide au début de l'univers. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se forment donc par l'accrétion de très grandes quantités de matière vers un trou noir. C'est plutôt la formation de ces trous noirs supermassifs qui pose un peu de problème pour l'instant. Et une des possibilités est que la collision de galaxies, donc la fusion de galaxies, permet au gaz d'atteindre le centre des galaxies, donc de très grandes quantités de gaz, et donc alimenter ce trou noir supermassif, et donc le quasar qui émet alors énormément de lumière.
Ces quasars ne sont présents que dans l'univers lointain et donc jeune, à une époque où l'univers était donc plus petit et qu'il y avait davantage de matière à manger. Pour les trouver et les étudier, il faut donc scruter le ciel et c'est en fouillant dans les données d'un grand relevé, le Sloan Digital Sky Survey, que ces scientifiques ont observé un phénomène assez étrange, une signature spectrale particulière autour d'un quasar. Pour en savoir plus, ils ont braqué sur ce quasar deux télescopes situés dans le désert d'Atacama au Chili, le télescope ALMA et le VLT de l'ESO, et c'est ainsi qu'ils ont découvert que la luminosité de cet objet cachait en fait la collision entre deux galaxies. L'une d'entre elles porte le quasar en son cœur, et la seconde est, disons, une galaxie classique sans quasar. Mais ce que révèle cette nouvelle étude parue dans Nature et dont ce chercheur est le premier auteur, c'est que le rayonnement du quasar de l'une transperce l'autre.
Effectivement, il passe à travers l'autre galaxie. Donc, dans le cas que nous avons observé, on a une configuration qui est particulière où le quasar se trouve en arrière-plan par rapport à la galaxie compagnonne. Donc, on observe, en fait, le quasar à travers sa galaxie voisine. C'est ça qui nous a permis, justement, d'étudier ce qui se passe au niveau du gaz dans la galaxie compagnonne. Nous avons observé que le champ de radiation UV du quasar étant très intense et la galaxie compagnonne étant très proche, en fait, le gaz dans la galaxie compagnonne est lui-même perturbé donc, par la présence du quasar. Donc, c'est la première fois qu'on observe vraiment un effet rétroactif radiatif donc, du quasar sur une autre galaxie. Et le gaz moléculaire diffus est dissocié. En fait, il n'y a que des petits nuages très denses, mais trop petits que pour former des étoiles, qui arrivent à survivre dans la zone éclairée par le quasar.
Le cône de radiation du quasar empêche la seconde galaxie de former des étoiles. Et c'est la première fois que des effets d'un quasar sont observés sur une autre galaxie que la galaxie hôte. Ce duel galactique se déroule à 11 milliards d'années-lumière de nous, ce qui signifie que nous avons 11 milliards d'années de retard sur ce combat. Les deux galaxies ont dû se rapprocher progressivement. Le quasar a d'abord été de plus en plus alimenté et puis il n'a plus rien à manger et il s'est éteint et restera seulement un trou noir supermassif massif comme celui qu'il y a au centre de notre galaxie. La suite de cette étude, ce sera d'observer ce même quasar et ces deux galaxies avec un télescope plus puissant comme l'ELT, l'Extremely Large Telescope, encore en construction au Chili. Il faudra attendre 2029, voire 2030, pour que ce télescope géant capte ses premières lumières.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lozelle, Louanger, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Élise Leu. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.